Vous écoutez un podcast RTL Originals.
Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis le correspondant de RTL aux États-Unis et voici un nouvel épisode d'Une lettre d'Amérique. Je dois vous l'avouer, c'est un épisode un peu particulier, car je me revois précisément en train de l'enregistrer le 29 mai 2019, au coucher du soleil, le magnétophone posé sur le capot de ma voiture, qui surplombait le mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. J'étais à El Paso, au Texas, et juste après avoir enregistré ce podcast, un peu dans l'urgence, je suis parti rapidement à l'aéroport accueillir ma famille qui venait au Texas assister à mon mariage. Je n'imaginais pas ce soir-là que quelques jours plus tard, tout près de l'endroit où j'enregistrais ce podcast, je n'imaginais pas que ma mère allait décéder dans cette ville de El Paso au Texas. Et si je vous raconte ça, c'est qu'au fond, depuis que je travaille à RTL, c'est-à-dire plus de 16 ans maintenant, j'ai pensé à ma mère tous les jours en travaillant. C'est-à-dire que j'avais pris l'habitude, quand j'intervenais en direct, ou quand j'écrivais quelque chose pour intervenir à l'antenne, j'avais pris l'habitude de m'adresser à ma mère. Au fond, je me disais que je racontais l'actualité à une personne qui était ma mère. À travers elle, au fond, je m'adressais à tout le monde, mais je pensais à elle tous les jours. Donc voilà cet épisode qu'elle n'a pas pu entendre. Je lui avais raconté, je lui avais dit « Ah, je viens d'enregistrer un épisode du podcast sur le mur à la frontière ». Elle m'avait dit « Ah, c'est intéressant, je l'écouterai ». Et donc le voici.
Hi everyone, je suis aujourd'hui à El Paso, c'est-à-dire à la pointe ouest du Texas. Le soleil vient de se coucher sur cette grande ville frontière, El Paso, au milieu du désert. D'ailleurs, je devrais plutôt dire les villes frontières au pluriel, car ici, côté américain, c'est El Paso, environ 800 000 habitants. Et en face, en fait, à quelques dizaines de mètres de moi, c'est Juarez, plus grand d'ailleurs que El Paso. Et de là où je suis, qui surplombe le côté mexicain, je peux distinguer justement des habitants, des Mexicains, chez eux, dans leur maison, qui dînent, qui regardent la télévision, qui vivent. Et entre nous, donc quelques dizaines de mètres, le Rio Grande, qui ici est plutôt étroit, donc c'est-à-dire la rivière qui marque la frontière, et puis un mur, et je suis d'ailleurs ici justement pour vous parler du mur. Oui. Vous suivez l'actualité américaine, vous savez certainement que Donald Trump a fait du mur sa principale promesse de sa campagne et de son élection. Mais il y a déjà un mur qui a été édifié sur un peu moins de 1000 km, soit environ un tiers, en fait un peu moins d'un tiers de la longueur de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. La construction de ce mur a commencé en 2006 sous la présidence Bush, ça s'est poursuivi sous la présidence Obama. Alors le mur a surtout été édifié dans des zones urbaines comme ici à El Paso, parce que, évidemment, c'est une évidence, mais il faut le rappeler, la frontière mexicaine, c'est aussi beaucoup, la frontière entre les États-Unis et le Mexique, c'est aussi beaucoup de déserts, de canyons. Il y a donc cette rivière, le Rio Grande, sur une bonne partie de cette frontière qui marque en quelque sorte une frontière naturelle. Il y a effectivement des trafics, de l'immigration illégale, mais les enquêtes de police montrent que la drogue, par exemple, passe essentiellement par des postes frontières légaux, comme ici à El Paso ou par exemple Tijuana au sud de San Diego en Californie. Alors j'ai souvent eu l'occasion sur RTL de vous parler d'immigration. C'est l'un des sujets au cœur de l'actualité depuis que je suis le correspondant de RTL aux États-Unis depuis l'été 2015. Donald Trump d'ailleurs venait de se déclarer candidat quelques semaines plus tôt avec une promesse simple et claire.
We're going to build the wall. We have no choice. We have no choice. Build that wall, build that wall, build that wall, build that wall, build that wall.
Le mur, le mur, le mur, soir après soir. Donc ça, c'était pendant la campagne. Donald Trump a été élu en novembre 2016. Il est à la Maison-Blanche depuis janvier 2017. Et depuis, eh bien, pas un seul kilomètre de mur n'a été édifié. Rien, pas un kilomètre. Il n'y a pas un seul pan de mur qui soit un mur Trump. Et la raison est assez simple. Il n'a jamais obtenu de majorité au Congrès pour le financer, alors même que les Républicains, donc son parti, étaient majoritaires à la Chambre et au Sénat pendant les deux premières années de son mandat. C'est vrai qu'il accuse souvent dans ses tweets les démocrates de faire de l'obstruction sur le mur, mais ce sont d'abord les votes de son camp qui lui ont fait défaut. Alors bien entendu, il n'y a pas de nation sans frontières, sans souveraineté, mais beaucoup d'élus, de droite comme de gauche, pensent que l'argent nécessaire pour construire le mur, plusieurs dizaines de milliards de dollars, serait beaucoup plus efficace pour lutter contre l'immigration illégale, s'il servait par exemple à recruter des juges qui traiteront plus rapidement les dossiers de demande d'asile, des agents de police aux frontières, de nouveaux moyens technologiques pour surveiller cette frontière. En somme, beaucoup jugent cette idée de mur archaïque, caricaturale, certains disent même moyenâgeuse, en tout cas largement inefficace. Si vous faites un mur deux fois plus haut, il suffira de le franchir d'une échelle deux fois plus haute, c'est aussi simple que ça. Alors faute de construire ce mur, Donald Trump s'occupe des détails du projet en répétant souvent qu'il a fait fortune comme un bâtisseur et que donc il s'y connaît. Par exemple, il y a quelque temps une réunion préparatoire pendant laquelle il a surpris les ingénieurs en exigeant que les bornes au sommet du mur soient peintes en noir parce que le noir absorbe la chaleur. Il voulait que les bornes soient brûlantes. Il a exigé aussi dans cette réunion que des bouts de bornes soient en pointe, si vous voulez, et pas arrondis. Et je l'ai lu dans le Washington Post, un compte rendu de cette réunion, où il était dit qu'il avait insisté sur ce point en écrivant, je cite, « en termes crus, les blessures potentielles que les migrants pourraient subir sur ces bornes en pointe et pas arrondies ». En fait, ce que je veux vous raconter, ce que moi j'ai compris depuis 4 ans, depuis que je suis ici, que j'écoute Donald Trump tous les jours, que je rencontre certains de ses partisans qui défendent l'idée de mur, ou au contraire des opposants qui sont contre toute idée de mur, en rencontrant des gens qui habitent à la frontière et qui sont pour ou contre le mur, en rencontrant aussi des migrants côté mexicain, voilà, en réfléchissant à ce sujet depuis 4 ans, je suis arrivé finalement à la conclusion assez vite que ce mur, c'est moins un projet concret et détaillé qu'un cri de ralliement, évidemment, pendant la campagne, un concept marketing pour électriser sa présidence, et en fait, et c'est ça que je trouve le plus intéressant, un mythe. Car au-delà de la séparation à la frontière américano-mexicaine et de l'immigration, cette promesse de mur indique implicitement que l'Amérique doit se refermer, se protéger contre une menace extérieure, et qui va d'ailleurs au-delà de la question de l'immigration. En fait, ce mythe du mur que présente Donald Trump conteste, remet en cause, concurrence un autre mythe de la nation américaine, le mythe de la frontière. Le mythe de la frontière, c'est l'idée d'une renaissance perpétuelle, l'idée que le progrès humain, économique, moral, nécessite de dépasser sans cesse les limites, l'universalisme de la nation américaine et de ses valeurs. C'est un mythe qui a été utilisé pour justifier aussi un expansionnisme économique, un expansionnisme militaire. C'est au nom de ce mythe que l'Amérique est devenue une puissance mondiale, économique, militaire, en fait un empire. C'est un concept qui est ancien, qui remonte au 19e siècle, qui remonte en fait à la conquête de l'Ouest. Et donc, ce que porte Donald Trump, ce n'est pas juste une politique d'immigration plus ferme, c'est, à mon avis, en tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois ici, c'est un nouveau mythe américain, un mythe concurrent du mythe de la frontière. Et c'est ça qui se joue autour de cette question du mur, une question plus importante qu'une simple réponse technique à un problème de migration. C'est une question existentielle pour l'avenir de l'Amérique. Faut-il se refermer ou s'ouvrir ? Alors, évidemment, la frontière, le mythe de la frontière dont je vous parlais, c'était aussi un mythe, un mirage. L'Amérique a des limites à sa puissance et elle s'en rend de plus en plus compte ces dernières décennies. Et c'est ce qui explique d'ailleurs en partie l'élection de Donald Trump qui promettait de rendre à l'Amérique sa grandeur. Enfin, voilà ce que je voulais vous raconter ici aujourd'hui à la frontière, à quelques dizaines de mètres du mur ici à El Paso. Vous faire comprendre que cette question du mur est ce qui se joue dans la société américaine, dans l'esprit américain autour de ce débat du mur, qui est un débat vraiment qui divise l'Amérique. Ce n'est pas seulement une question d'immigration, c'est au fond l'avenir de l'Amérique, la manière dont les Américains voient leur nation. Alors pour conclure cette lettre d'Amérique, depuis la frontière à El Paso, au Texas, à quelques dizaines de mètres de Juarez, au Mexique, je vais vous laisser avec The Wall des Pink Floyd. Pas seulement parce que The Wall, ça veut dire le mur, c'est aussi parce que j'ai interviewé il y a 2 ans Roger Waters des Pink Floyd pour RTL à New York. et je voulais lui parler de ses projets musicaux pour une interview pour l'émission Laissez-vous tenter sur RTL. Mais lui revenait sans cesse dans ses réponses à Trump et notamment à ce mur. Il m'avait d'ailleurs dit qu'il envisageait de venir chanter ici à la frontière, comme il l'avait fait, me rappelait-il, près du mur de Berlin à la fin des années 80. Thank you and goodbye.